Yeah, bonsoir. Je voudrais tout d'abord régler son compte à un point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation après, dans le titre, le monde inachevé. Alors je vais enlever le point d'interrogation. Le monde est effectivement inachevé. Et pour ce faire, pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit, je vais vous rapporter deux enseignements du Ramchal, Rav Moshe Chaim Lutzato, qui est un grand maître, entre autres, de Kabbale du début du XVIIIe siècle. Le Ramchal dit dans le Derech Hashem, il dit la chose de la manière suivante, il le dit bien entendu avec sa terminologie dans laquelle je ne vais pas vraiment entrer, mais ce sera suffisant pour nous aider un petit peu à voir les choses sous un autre angle éventuellement. Il dit la chose de la manière suivante, il dit, à Kadosh Baruch Hu, Hachem a arrangé les choses lorsqu'il a créé le monde, de telle sorte que tout ce que l'homme peut faire avec son libre arbitre aura la force d'influencer dans une mesure que lui, Yidbarach, c'est le cas, Kadosh Baruch Hu a fixé, aura la force d'influencer des forces qu'il appelle transcendantales, c'est-à-dire il y aura un impact au-delà de ce monde en particulier, qui viendra tant des actes que des paroles ou même des pensées de l'homme. Ça fait partie en quelque sorte de l'arrangement général qu'Akadosh Baruch Hu a donné dans le monde. Lorsque ces forces qui sont transcendantes sont influencées par le libre arbitre de l'homme, elles influencent à leur tour la partie du monde physique qui leur est rattachée. Les lois qui régissent ces influences réciproques expriment la façon dont la providence divine fonctionne et fait advenir tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Dans le monde, par décret divin en quelque sorte, le bien et le mal existent. Ce sont des formes transcendantales, effectivement, qui étendent leurs effets, donc elles existent hors de ce monde, assez haut, et elles étendent leurs effets jusque dans le monde physique, jusque dans le monde dans lequel nous sommes. De façon générale, toutes les forces transcendantales sont les racines de tout ce qui existe, et ces forces peuvent être dans deux états. Un état qu'on va appeler bon, c'est-à-dire que cette force-là peut être, et ça c'est la terminologie propre du Ramchal, de la Kabbale, elles peuvent être illuminées, c'est-à-dire réceptives à la lumière de la présence divine, et l'état est dit mauvais dans le cas contraire. Et quand ces forces sont dans un état donné, si elles sont dans un état qui est dit mauvais, elles peuvent être arrangées, si on appelle ça un tikkun, un arrangement. Et quand elles sont dans un état qui est dit bon, elles peuvent être endommagées, et on appellera ça un kilkoul, donc le fait d'abîmer en quelque sorte cet état. Ça, c'est ce que dit Rav Moshe Chaim Lutzato dans le Derech Hashem. Et dans le Da'at Tvunot, qui est un autre de ses ouvrages, qui est rédigé sous forme d'un dialogue entre l'intellect, entre le Sechel et la Neshama, et l'âme, eh bien, il traite tout au début de son ouvrage de la question qui nous intéresse. Et je pense que c'est aussi utile de l'entendre. Le sechel, l'intellect, dit la chose suivante. Ce qu'il faut savoir, et qui est un principe fondamental, c'est que la volonté divine est que l'homme se perfectionne, lui et tout son environnement. Et lorsqu'il fait cela, l'homme, ce sera son mérite, son zuchut, comme on dit. Comment est-ce qu'il s'acquiert le mérite? Justement par l'effort qu'il aura produit pour cela, de sorte que lorsqu'il aura réussi, lorsque effectivement il se sera perfectionné, il aura perfectionné son environnement, alors on dit qu'il sera néné miyagia kapav, c'est-à-dire il jouira du fruit de son travail. Il aura chelko becholamalo, il aura une part dans tout son, il sera dans tout son travail, en quelque sorte, dans tous ses efforts. Il se sera en quelque sorte construit lui-même, si on peut parler comme ça. Et puis il aura aussi, lorsqu'il aura réussi, il aura un salaire, il aura une récompense. Ben, la récompense, c'est que finalement il sera parfait et qu'il va jouir du bien pour l'éternité. Ça, c'est le principe fondamental, dit le sechel, l'intellect. Alors la neshama lui demande, est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce qu'on peut dire pourquoi? Est-ce que les choses sont de cette manière? Alors le sechel répond, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que Hashem Yitbarach est le bien par excellence. Et on sait bien que le bien s'épanche, comme on dit, c'est-à-dire le bien veut faire le bien. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu, Hashem a voulu, il a créé le monde ainsi, de sorte à pouvoir faire du bien aux créatures. Puisqu'il est le bien, il veut s'épancher, il faut qu'il crée des créatures qui reçoivent le bien qu'il veut faire. On va dire les récepteurs de ce bien. Il faut encore qu'ils reçoivent ce bien comme fruit de leur travail et pas comme quelque chose qui leur serait octroyé gratuitement. Alors seulement ils seront vraiment les possesseurs de ce bien sans aucune honte. On touche ici au sujet qu'on appelle Nama de Kisufa, c'est-à-dire le pain de la honte, c'est-à-dire le pain que reçoit le pauvre et qui effectivement le nourrit mais lui fait honte parce qu'on ne lui a pas donné les moyens, en quelque sorte, de se procurer le pain par lui-même. Donc, il vaut mieux, effectivement, comme on dit, lui apprendre à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Parce qu'à ce moment-là, il sera lui-même l'artisan, il aura lui-même produit le poisson qu'il va manger, il sera le possesseur de ce poisson, si on peut parler comme ça, sans honte. Alors le Sechel dit, tu vois que ici on a un sujet de réflexion qui s'appelle Inyan Hachisaron, le sujet du manque. Le manque, le défaut, et la façon de combler le manque, de réparer le défaut. C'est un grand sujet de réflexion. La Neshama lui demande alors, au Sechel, elle lui demande, mais qu'est-ce que ça va donner à l'homme lorsqu'il aura fait ce tikkun? Donc qu'est-ce que c'est que cette perfection à laquelle il accède? Et le Sechel répond, eh bien c'est ce qu'on appelle Olam Haba, le monde à venir. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on aurait attendu de la part d'Hachem qui est parfait, c'est-à-dire on aurait attendu qu'il crée un monde parfait, quelque part, le fait qu'Hachem, qui est parfait, crée un monde imparfait, c'est quelque chose de difficilement acceptable. Or, c'est ça le grand principe fondamental. C'est que Hachem n'a pas créé un monde parfait, ni des créatures parfaites, mais un monde imparfait et des créatures imparfaites. La Gemara dans Chagiga nous dit qu'il faut entendre un des noms divins. Vous savez qu'Hachem a, Kadosh Baruch Hu a beaucoup de noms. Il y a le tétragramme, il y a Elohim. Et puis il y a un nom qui s'appelle, qui s'écrit en trois lettres, Shin, Daled et Yud. Et dans ce Shin, Daled et Yud, là, les deux dernières lettres qui font le mot Dai, que tout le monde connaît, en tout cas depuis le Pessah dernier, c'est les Dayeinu de la Haggadah de Pessah. Et on dit qu'il faut entendre ce nom divin comme disant She Amar le Olamo Dai. Son nom, c'est il a dit à son monde, suffit. Ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Alors, l'Agmara dit, le monde, lorsqu'il a été créé, il était en expansion. Et puis, au bout d'un moment, Hachem a mis un terme à cette expansion. Et il a dit, ça suffit. Et il faut entendre dans ce, ça suffit. Il faut entendre que le monde tel qu'il est, dans cet état-là, dans cet état d'expansion-là, est suffisamment riche pour que l'homme puisse le parfaire. Il y a suffisamment de richesse dans ce monde pour qu'on puisse le transformer en un monde parfait, tel qu'Hachem a voulu que l'homme le fasse. Il y a encore un problème, c'est mais d'où l'homme a-t-il cette force de faire ce tikkun, cet arrangement? Cet homme imparfait, avec néanmoins une hasaga, c'est-à-dire une idée de ce qu'est la perfection qu'il doit atteindre. Bien entendu, cette perfection vers laquelle l'homme doit aller est totalement négligeable par rapport à la perfection divine. Il ne s'agit pas du tout d'imaginer que la perfection à laquelle l'homme atteint quoi que ce soit à voir avec la perfection divine. Mais c'est la perfection qu'on lui demande. Bien, cette force que l'homme a pour faire ce travail, la Torah la lui donne, si vous voulez, de la manière suivante. La Torah contient un principe qu'on peut résumer sous l'expression Ma'ani Afatem, c'est-à-dire de même que moi, j'ai telle et telle qualité, disons, eh bien vous aussi, vous devez avoir cette qualité. En quelque sorte, Hachem se propose comme modèle, Hachem dit de lui-même dans la Torah, eh bien je suis Rachum, je suis Hanoun, c'est-à-dire je fais grâce, je manifeste ma tendresse, etc. Pourquoi est-ce que Hachem dit cela? Pas du tout pour nous aider à faire de la théologie, pour que nous sachions quelque chose sur Hachem. Nous ne savons toujours rien là-dessus. On ne peut rien savoir. Mais c'est une façon de dire ce que l'homme doit viser. Et si on pense que cette visée est par trop lointaine, ce qui est une erreur, et néanmoins, Hachem nous a encore, dans la Torah orale, on est venu, on nous a donné encore une aide. Le modèle, il est là, c'est Ma'ani Afatem, de même que moi, je, etc., ben vous aussi, de même que je suis saint, vous devez être saint, etc. Mais les Chachamim ont expliqué la chose, enfin ils ont étendu la chose de la manière suivante, ils ont dit, et le Rambam rapporte ça dans la halakha, c'est-à-dire comme quelque chose qui oblige chacun d'entre nous. Et les Chachamim ont dit que l'homme est obligé de dire, il doit dire et se dire ça, et donc se fixer comme but, il doit se dire Matai yagi u ma'asai le ma'asai avotai Avraham Yitzhak ve Yaakov. Quand est-ce que mes actes arriveront à la hauteur des actes de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, voilà, ça a été, si vous voulez, il y a une incarnation, il y a eu des hommes qui sont arrivés à cette perfection vers laquelle chacun d'entre nous doit tendre. pas seulement que on a donné la direction, on pourrait dire bon. Bien sûr, si vous voulez, quand Hachem dit Ma Ani, il ne veut pas dire, on n'est pas en train de, je vous répète, on n'est pas en train de dire quoi que ce soit concernant Hachem lui-même, pour lui-même. On dit quelque chose qui est ce qu'Hachem veut nous montrer, nous donner comme but à atteindre, et puis on nous facilite le travail, si on peut parler comme ça, en disant quelque chose de plus concret, de plus facile, entre guillemets, à viser, et qui est Maase Avotai Avraham Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire la conduite de nos ancêtres Avraham Yitzhak et Yaakov. Bien entendu, Hachem aurait pu créer la perfection, bien entendu. C'est encore une fois, c'est même ce qu'on attendait de lui, si je peux parler comme ça. Mais ça n'était pas sa volonté. Donc voilà pour dire que ce monde inachevé, qui appelle un travail de l'homme, c'est effectivement exactement ce qu'Hachem voulait. Donc on a un monde inachevé, d'accord, créé de façon imparfaite, un homme créé avec les moyens de parfaire ce monde, et de se parfaire, lui, l'homme créé imparfait, avec les moyens de se parfaire et de parfaire le monde dans lequel il est. Voilà ce qui est la donnée, en quelque sorte. Mais bien sûr, on a l'impression que comment est-ce qu'on va faire des choses qui, comme on l'a dit, vont bouleverser, vont toucher les forces transcendantales. Comment est-ce qu'on va arriver si haut, en quelque sorte? L'impression que, eh bien ça, on pourrait éventuellement le faire avec des mitzvot. Les mitzvot permettent à l'homme de faire plus que ce qu'il peut. D'accord? Parce que Hachem lui a dévoilé que ces gestes-là sont des gestes fondamentaux dont Hachem a dit que ces gestes avaient un impact, justement, au plus haut. Ça, c'est dans les mitzvot. Parce qu'il y a un mitzavé, il y a quelqu'un, Hachem a ordonné, et de cette manière-là, il a donné un pouvoir à certains gestes. Il a dit, voilà, il y a des gestes qui sont des gestes élémentaires, d'accord ? Vous allez prendre, à un certain moment, vous prenez un bouquet, on prescrit la composition du bouquet, on secoue un peu ce bouquet, et ça a un impact fabuleux sur le monde. Ça touche tout le régime des pluies et des vents, etc. Du monde entier. Et ce n'est pas la théorie du battement d'ailes des papillons. C'est vraiment... théorie, ça touche encore bien plus haut que simplement toute la météo, etc. Mais ça, on comprend, disons. On peut dire, voilà, je peux comprendre, ce sont des gestes qui ont été prescrits. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le travail dont nous parlons ? Nous parlons justement, dans ce séminaire, du travail, c'est-à-dire de quelque chose qui ne se résume pas aux mitzvot. Les mitzvot sont fondamentales. Dans le travail, il y aura des situations qui relèvent des mitzvot, mais on parlait du travail en lui-même. Donc, en quoi est-ce que ce travail va permettre d'agir sur ce monde qui est inachevé, qui est incomplet? Comment est-ce que on va pouvoir, par le travail, également participer à l'achèvement du monde, au perfectionnement du monde? Donc, comment on passe des mitzvot au travail? Alors, premièrement, la tâche de l'homme, celle d'Adam Arishon au tout début de l'humanité, donc, cette tâche est formulée en termes de avoda, de travail au sens large. Alors, dans le Gan Eden, là où l'homme a été placé au départ, l'homme avait en quelque sorte que la partie haute du travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Kodesh, la partie qui touche au saint, à ce qui est saint. Et après la faute, l'homme a également la partie basse, la partie chol, la partie profane. On pourrait dire que cela veut dire ici qu'il n'a plus l'aide inconditionnelle de la terre, cette terre qui le libérait complètement du problème d'assurer sa subsistance. Ça, c'est le premier sujet dont Ramoshé a parlé. Ce travail qui est entre le sacré, entre le Kodesh, préfère dire le saint, et le Chol, le profane. La question de savoir où est-ce qu'on situe exactement le travail. Est-ce qu'on voit la charnière entre les deux, justement? Est-ce que le travail est justement un mode de profanation, si on peut parler comme ça, qui va créer un espace dans lequel le Kodesh va pouvoir faire son entrée, en fait, va pouvoir agir concrètement, sortir du monde des seules idées pour entrer dans un monde concret. J'ai pensé qu'on pouvait peut-être ajouter la chose suivante. Il y a une mitzvah, pour commencer, il y a une mitzvah qu'on appelle la mitzvah de Terouma. Terouma, c'est un prélèvement. C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire que quand vous avez moissonné votre champ, lorsque vous avez préparé complètement le blé, vous avez votre tas de blé parfaitement lisse, etc., on doit prélever une certaine quantité, elle n'est même pas, la quantité n'est pas prescrite, mais une certaine quantité de blé, on va donner au Kohen. Et ce prélèvement, qui consiste donc à enlever une partie qu'on va considérer comme concentrant en elle tout le Kodesh qu'il y avait, tout le saint qu'il y avait dans ce tas de blé, on le concentre et on donne ça au Kohen, c'est-à-dire on le donne à celui qui va l'utiliser comme nourriture pour se nourrir, lui qui est au service d'Hachem, lui qui assure le fonctionnement du Beth Amikdash, etc. Et la résultante de cette trouma, de ce prélèvement, c'est une profanation. Pas du tout au sens négatif du terme, bien entendu. C'est une profanation au sens où on a rendu profane le reste. On a prélevé la partie Kodesh et la résultante est profane. Et maintenant, le travail, justement, ça c'est en quelque sorte l'ordre de la mitzvah. Et le travail va consister à faire rentrer dans ce qui est profane maintenant, rentrer une dimension de Kodesh. On va travailler ce blé, on va le travailler, on va en faire du pain, on va lui donner justement des dimensions. On va, grâce à ce travail, on va donner du sens à ce qui reste, à ce monde-là, on va lui mettre du Kodesh, et du coup le travail qui donne du sens va lui-même prendre tout son sens. On va mettre il va y avoir un travail au service de l'homme, bien sûr, mais au service de l'homme pour que l'homme, à son tour, se dépasse, que lui-même, justement, construise ce monde, c'est-à-dire prendre ce qui est profané, ça y est, ça m'appartient maintenant, il n'y a plus de Kodesh, je l'ai enlevé, j'ai donné sa part au Kodesh en fait. Néanmoins maintenant je vais réentrer du Kodesh, mais c'est un Kodesh que je vais mettre moi-même par mon travail, en quelque sorte, dans ce blé en fait qui reste par exemple. Et donc le monde effectivement doit être, ce monde inachevé on peut le considérer dans cet état-là. Avant qu'on prélève et qu'on donne au Kohen, ce monde est intouchable. Il est interdit aux Kohanim aussi, techniquement. Les Kohanim non plus ne peuvent pas manger. Bien qu'ensuite, quand on donnera la Trouma, eux, ils vont pouvoir manger la Trouma, mais tant qu'on ne l'a pas prélevé, tant qu'on n'a pas fait apparaître le Kodesh, le Saint d'un côté, et le Chol de l'autre, les Kohanim ne peuvent pas manger. Même les Kohanim ne peuvent pas manger. Il y a évidemment un travail qui est attaché à la terre, qui est le travail qui est décrit comme étant le travail initial. Mais on a vu qu'il y avait dans les enfants d'Adam, Caïn et Hevel, qui ont choisi deux, on les représente comme ayant choisi deux professions, deux occupations distinctes. Caïn qui est agriculteur et Hevel qui est un éleveur. Et vous savez bien que Caïn a inventé la notion de corban, de sacrifice. C'est lui qui a offert, lui il est le premier au monde à avoir offert quelque chose à Hachem. Et Hevel a copié, mais il a fait mieux. Et Hachem a agréé le corban, le sacrifice d'Hevel, et pas celui de Caïn. Et je me suis demandé si au fond, Caïn comme agriculteur, est-ce qu'en fait il était plus qu'un cueilleur simplement et un gestionnaire de ce qu'il avait cueilli. Et peut-être, est-ce qu'il ne faut pas considérer que le corban de Hevel a été accepté parce que dans l'élevage, l'homme doit en faire plus que dans cette agriculture que faisait, que pratiquait Caïn. Par la suite, d'ailleurs, on voit très bien que les patriarches et Moshe Rabbeinu, etc., et, ils choisissent tous la voie de Hevel. Ils sont tous dans l'élevage plutôt, ou dans le rôle de berger. Est-ce que c'est uniquement pour rester nomade, en quelque sorte? Est-ce qu'on ne doit pas considérer que le travail, dès lors qu'il est rapporté à la terre, n'induit pas toujours un rapport de propriétaire, de domination, donc générateur d'orgueil, ou de domination esclavagiste? On voit que une des premières occurrences de la notion de Av, de père, dans la Torah, hein, c'est une paternité qui est plutôt la paternité au sens figuré en français, c'est-à-dire l'inventeur de celui. Alors, c'est l'inventeur de celui qui est Yoshev Oel ou Mikne. C'est-à-dire celui qui habite dans les tentes et qui suit les troupeaux. C'est-à-dire, quelque part, il y a automatiquement une forme de modestie dans le fait que c'est pas l'éleveur, c'est pas quelqu'un qui a un ranch. Dans un ranch, on ne suit personne. Dans le ranch, c'est sédentaire. Et de ce point de vue-là, c'est plus proche de l'agriculteur. Mais peut-être justement se mettre au service d'eux, quand même, ici, au service du troupeau. C'est vrai qu'on va prendre du troupeau tout ce que le troupeau va donner, que ce soit du lait, que ce soit de la viande, que ce soit de la laine, etc., peu importe. Mais il y a cette idée de suivre le troupeau. Alors peut-être que c'est générateur d'un anti-orgueil, en quelque sorte. Et comme on l'a déjà dit plusieurs fois, l'orgueil est c'est le problème de l'homme, puisque l'orgueil, c'est la situation dans laquelle l'homme se prend pour le Créateur. Alors, je me suis demandé si ce rapport à la terre, en particulier qu'il y a dans l'agriculture, n'est pas toujours un rapport très dangereux en réalité. Vous savez bien qu'une des choses que la Torah demande au clan d'Israël, c'est de ne pas avoir par rapport à la terre le rapport qui existe parmi tous les peuples. Bon, on n'est jamais propriétaire de la terre d'après la Torah. On n'est jamais. Il y a les années sabbatiques, il y a les troumotes, masrot, toutes les mitzvot qui sont liées à la terre, qui sont sans arrêt là pour nous rappeler que tu n'es pas propriétaire. Et même si tu vends ta terre, eh bien. Ou si tu achètes une terre, tu n'es propriétaire que d'un certain nombre de récoltes. Ça ira jusqu'au Yovel. Tous les 50 ans, le terrain patrimonial revient à son propriétaire initial. Donc on n'achète pas une terre définitivement. On n'achète que un nombre de récoltes. Et donc on a vraiment cette idée que la terre, c'est quelque chose de dangereux, visiblement. Le travail de la terre aussi. Bien sûr, il y a de nombreuses formes de travail qui ne sont pas liées à la terre. Et elles se distinguent par la qualité du travail, comme Chaim Meir Tankar l'a montré. Donc, on appelle ça Avodah, Melacha, Asiya. Il a montré qu'en fait, ce qu'il fallait essayer de faire, c'était premièrement introduire dans ce travail une dimension de générosité. Ça se dit en hébreu une dimension de chesed. Le chesed, cette générosité, c'est la caractéristique du premier patriarche. Ça veut dire que, quelque part, le clan d'Israël, sa base, c'est le chesed. Et la Torah, elle est dite, commencée par du chesed et terminée par du chesed. C'est-à-dire, toute Torah qui ne serait pas une Torah de chesed, en fait, n'est pas réellement une Torah. Ça veut dire, c'est une étude qui ne serait pas généreuse, qui par exemple ne serait pas, déboucherait pas sur un enseignement, etc., n'aurait pas vraiment sa dimension de Torah. Ce chesed, c'est-à-dire en fait s'occuper de l'autre, de veiller à l'autre, et veiller même de façon plus générale à tout ce qui dans le monde existe et a besoin que l'homme s'en occupe, d'accord, puisque ça fait partie de cet environnement dont l'homme doit s'occuper pour le parfaire, eh bien les besoins du monde, là, on avait vu que la prière nous permet d'exprimer ces besoins et de cette manière de construire un futur en ouvrant des voies nouvelles, sans qu'on sache obligatoirement comment ces chemins qu'on a ouverts, comment ces chemins vont continuer de se développer, comment ça va se terminer, on ne sait pas. Mais comme Eved d'Hachem, comme serviteur d'Hachem, je dois aller dans le domaine public, je dois aller dans le monde. Alors, bien entendu, je dois d'abord, pour pouvoir aller dans le monde, me construire chez moi par l'étude. Ensuite, on va dans le monde. Ensuite, on revient à l'étude pour préparer une nouvelle situation dans laquelle on va pouvoir aller au-delà dans la construction avec ce fameux mouvement de contraction et d'expansion dont on a parlé dans le troisième exposé. Et puis, au fond, tout ce qui nous est demandé, par exemple, dans le fonctionnement du Beit HaMikdash, où Hachem demande qu'on fasse ceci pour lui, on lui apporte son pain, etc. On sait bien que Hachem n'a besoin de rien, et que par conséquent, ce sont des façons de parler. Hachem demande, comme j'ai dit au tout début, qu'on le vise, lui, mais ce n'est pas du tout parce qu'il a besoin de quelque chose, c'est parce que, en le visant, lui, c'est le seul moyen de m'atteindre réellement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais élargir grâce à cela. Je vais agir pour moi et élargir ma liberté, en fait, mon monde. Tout ça, tout ce monde du Kodesh, tout ce monde dans lequel on va donner on va introduire de la Kdusha, introduire du Saint, remettre, cette fois-ci, à notre initiative, remettre du Saint dans ce fameux tas de blé dont on a parlé, tout ça, ça se fera par la parole. La parole va créer un monde de Kodesh concret qu'on pourra réellement habiter. Et d'une certaine manière, l'homme va être appelé à faire les choses, et on avait vu qu'il fallait se souvenir de ce que Hachem, à la fin de la construction du monde, la création du monde au bout des six jours. Il a fait Shabbat et il n'est marqué nulle part dans la Torah qu'Hachem est sorti de son Shabbat. Et il, dans le petit morceau qu'on dit avant le Kiddush, qui termine par la Hassot, c'est comme si Hachem disait, maintenant c'est à vous d'agir, c'est aux hommes d'agir. Et on va agir, et Hachem dit, vous allez agir d'une certaine manière à ma place. Ce que je veux, c'est que vous agissiez à ma place, puisque vous devez parfaire le monde. C'est-à-dire, j'ai créé un monde, et à vous d'agir, quasiment à ma place. Par conséquent, je vais même fabriquer des situations où je vais me mettre dans, enfin, des situations dans lesquelles je pourrais accomplir des mitzvot. C'est-à-dire, il y a des mitzvot qui me sont données, et puis il y a des situations que je fabrique, et grâce à ces nouvelles situations-là, je peux faire des mitzvot. Et donc, on avait dit que d'une certaine façon, se faire des mitzvot, fabriquer des situations dans lesquelles je peux faire des mitzvot, c'était d'une certaine façon faire société. Bien entendu, le grand problème, c'est comme on l'a dit, c'est le problème de la liberté. Et le Derech Hashem, toujours lui, donc c'est Moshe Chaim Lutzato, dit qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'Hashem se libère des contraintes physiques, dans toute la mesure des possibilités. On ne peut pas se libérer de l'obligation qu'on a de respirer, de manger, de boire, etc. Mais dans la mesure des possibilités, se libérer des contraintes physiques même. Nous, on regarde le fait de s'occuper de l'autre. Et s'occuper de l'autre, c'est d'abord lui laisser, peut-être même lui donner, ou en tout cas l'aider à accéder à la liberté. Et dans le travail, ça se réalise en prenant en compte que dans la vie, on est de toute manière obligé de faire un effort. Et comme Yonah Bidwell l'a démontré, ma seule liberté, c'est de savoir dans quel sens fournir mon effort. Est-ce que... Donc, voir le travail comme un effort choisi, plutôt que de subir, en quelque sorte, cet effort. J'avais donné cette formule, si tu ne donnes pas de la peine, tu en éprouveras. Donc, il faut choisir de se donner de la peine pour éviter d'avoir à en éprouver. Choisir de faire l'effort, choisir de se donner de la peine, c'est ce qu'on appelle s'occuper de Torah, c'est-à-dire donner au travail un sens en l'intégrant à ce qu'on appelle le Hesseka Torah, c'est-à-dire, c'est pas seulement l'étude. Hesseka Torah, c'est faire de la Torah son affaire, au sens où, justement, je fais participer la Torah à toutes les situations dans lesquelles je me trouve et toutes les situations que je crée même. Toujours en vue d'accomplir la Torah, c'est-à-dire éventuellement de faire des mitzvot ou de réaliser des situations dans lesquelles on se retrouve réalisé ce que la Torah nous a demandé de faire. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie liberté, c'est celle qu'on acquiert lorsqu'on s'occupe de Torah au sens où on vient de le décrire. Dans le travail, souvent la relation qui s'installe, c'est une relation du type maître-esclave ou dominant-dominé. Et Jean-Claude Bonner a montré que la Torah déconstruit complètement cette relation. En un mot, la Torah dit, nous enseigne que celui qui acquiert un esclave acquiert en fait un maître. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme de réciprocité dans les relations, on va aller dire la relation faible, employeur-employé pour pour ne pas parler obligatoirement d'une relation maître-esclave, mais en fait, l'employeur a une obligation par rapport à son employé. Il a une responsabilité. Et sa responsabilité, en fait, elle est calquée sur le modèle qu'Hachem a donné. Qu'est-ce qu'Hachem nous a demandé ? Qu'est-ce qu'Hachem nous a donné ? Il nous a donné à nous qui sommes ses serviteurs, ses servants, ses esclaves, si vous voulez, Eved même. Eh bien, Hachem veut que son servant, son serviteur, son esclave, accède à la liberté. Il nous a donné la liberté, Charut al haLuchot, c'est gravé sur les tables de la loi. Il a donné cette liberté définitivement au Sinaï. Et bien sur ce modèle-là, si on se trouve dans la position d'être l'employeur, eh bien on a à l'égard de l'employé à se conduire comme Hachem nous l'a montré, c'est-à-dire à faire accéder l'employé à la liberté. À une liberté qui est là aussi difficile à assumer, parce que bon, il est libre sans l'être complètement, donc c'est une liberté difficile, évidemment. Toutes les halakhot qui gouvernent, elles sont très nombreuses, qui gouvernent les relations employeur-employé, en fait, réalisent, en fait, toutes ces halakhot expriment ce paradoxe de qui acquiert un esclave ou un serviteur acquiert en fait un maître. Donc, on a toujours à penser dans les relations employeur-employé que les halakhot vont exprimer justement cette déconstruction du rapport de domination, cette nécessité dans laquelle on est, dès lors qu'on est dans cette position-là, de faire accéder celui qui dépend d'une manière ou d'une autre de nous, si on est l'employeur, de faire accéder à la liberté. Ensuite, avec Michael Seban, on a vu à l'œuvre la notion justement de ce serviteur esclave d'Akadosh Baruch Hu dont je viens de parler, et que c'est une notion qui justement libère l'homme de toute forme d'esclavage. La Gemara, il avait centré son exposé sur la Gemara qui dit que les Bnei Israël sont mes serviteurs, mes esclaves, et ils ne sont pas les serviteurs de mes serviteurs. En d'autres termes, il y a à veiller dans toutes les relations justement d'employeur à employé qu'il n'y ait jamais de rapport qui s'instaure et qui mette l'employé dans la situation finalement de ne pas être libre par rapport à son employeur, et donc ça, en fait, ça crée des situations presque paradoxales où c'est en général où l'employeur va être peut-être même gêné de la liberté de l'employé, parce que comme on ne peut pas imposer à l'employé certains comportements qu'on voudrait imposer pour assurer que l'employeur y trouve parfaitement son compte, parce que sans cela, on en ferait un esclave. S'il n'est pas libre de l'organisation de son temps, il est esclave. Alors on en ferait un esclave et on n'a pas le droit, puisque les Bnei Israël sont mes esclaves, dit Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si à la sortie d'Égypte, au moment de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu avait accepté de jouer le rôle du maître dans le couple maître-esclave pour empêcher que qui que ce soit puisse le jouer pour, ou faudrait dire contre, les Bnei Israël. En quelque sorte, Hachem dit, j'occupe la place, c'est moi le maître. Et donc personne ne peut venir et se placer comme maître des Bnei Israël. Parce que sinon, il est en contradiction avec la règle qui lie Bnei Israël à Vadim. C'est à moi, ce sont mes serviteurs à moi, les Bnei Israël, et pas les serviteurs de mes serviteurs. ils ne peuvent pas être réduits en esclavage par mes serviteurs. Et on peut même dire une forme de paradoxe. On avait dit au tout début que l'homme était créé Betzelem Elokim, que l'homme est créé à l'image d'Hachem. Merci. L'homme est créé à l'image d'Hachem, alors que qu'Hachem serve de modèle et que l'homme imite Hachem, puisqu'il est à l'image d'Hachem, il n'y a rien que de très normal. Seulement, on voit le contraire. On voit le contraire, justement, au moment de la libération, au moment du commencement de la libération du peuple juif, c'est au moment de la sortie d'Égypte, il se passe la chose suivante. Les Bnei Israël sont en quelque sorte libérés au milieu de la nuit, à minuit, et il fait, c'est le milieu de la nuit, mais néanmoins il fait jour, comme si on était en plein jour. C'est le milieu de la nuit, mais il y fait jour quand même. Et alors, les Chachamim m'expliquent ce qui se passe, pourquoi tout à coup c'est comme ça. Alors, on explique que Hachem a pris modèle sur Abraham. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? C'est Hachem qui prend modèle sur Abraham. Il dit, quand Abraham est allé pour libérer Lot, qui avait été fait prisonnier par les peuples qui étaient engagés dans la guerre des quatre rois contre les cinq rois, Lot avait été fait prisonnier comme habitant de Sodome, et Abraham est allé le libérer, et à ce moment-là, on ne faisait pas la guerre la nuit. Et néanmoins, Abraham a dit, moi, je ne vais pas rester comme ça les bras ballants, alors que Lot est prisonnier, il souffre. Bien que ce soit la nuit, je vais aller faire la guerre contre eux. Et alors Hachem lui a dit, tu as transformé la nuit en jour pour sauver Lot plus tôt, pour empêcher que Lot souffre quelques heures de plus. Alors, je jure, dit Hachem, que je ferai pareil pour tes enfants. Toi, tu as transformé la première moitié de la nuit en jour. Eh bien, moi, cette même nuit, je transformerai la deuxième moitié de cette nuit en jour. Et c'est la raison pour laquelle, cette nuit-là, c'était la nuit de la sortie d'Égypte, la deuxième moitié de la nuit, donc à partir de minuit, il a fait absolument jour en Égypte, au moment de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le Tselem qui a induit le comportement des Elohim. N'est-ce pas? C'est l'homme, Abraham en l'occurrence, qui joue le rôle de modèle pour Hachem. Hachem dit, puisque tu as fait comme ça, alors moi aussi je ferai comme ça. C'est-à-dire, c'est tout ce travail, n'est-ce pas, pour montrer le rôle, l'importance de l'homme dans le monde. Au point que Hachem, par rapport à Abraham, accepte de, comme si c'était lui l'image. Et que le modèle, c'était Abraham, et que lui, il est à l'image d'eux, c'est-à-dire c'est lui qui copie Abraham. Et c'est intéressant que, dès le moment où les Bnei Israël accèdent à la liberté, à un commencement de liberté, à la sortie d'Égypte, immédiatement on voit cette image arriver, ce renversement littéralement, parce qu'effectivement la sortie d'Égypte, c'est le commencement pour le clan d'Israël d'une époque où les Bnei Israël vont devoir faire le travail quasiment à la place d'Hachem. Hachem dit, maintenant c'est vous qui agissez. On avait ensuite dans l'exposé suivant parler de cette créature créatrice, c'est-à-dire que effectivement il y a une singularité, on avait dit, dans la création de l'homme, c'est que tout avait été créé par la parole divine, et l'homme, lui, il a été créé par la parole et par les mains d'Hachem, si on peut parler comme ça. Il a été pétri par les mains d'Hachem, et du coup ces deux éléments, parole et action, caractérisent l'homme au moment de sa création pour lui permettre à lui aussi une double action par la parole et par les actes. Par la parole, c'est l'étude, la prière. Par la parole, par l'étude, on a des équivalents d'actes. C'est-à-dire, justement, certaines fois, les actes ne sont pas possibles. Parce que ce serait lié à une transgression, ou bien c'est parce que c'est Shabbat, etc. Eh bien, il y a l'étude qui remplace l'acte. Quelque part, dans certaines circonstances, on peut étudier ce qu'il faudrait faire lorsqu'on ne peut pas le faire, et cette étude est équivalente à l'action. C'est quelque chose qu'on applique couramment dans tout ce qui concerne aujourd'hui la situation, notre situation par rapport au Beth Amikdash. Nous n'avons pas de Beth Amikdash, donc tout ce qui est de l'ordre des korbanot, des sacrifices qu'on devrait apporter, nous en sommes réduits, en quelque sorte. On ne peut pas faire les actes en question, mais rien ne nous empêche, et c'est ce que nous devons faire, d'étudier les sujets jusqu'au aussi à fond que possible, au point qu'il ne resterait plus qu'à mettre en acte. Mais on a clarifié tout ce qu'il fallait faire. On sait exactement le mode opératoire de ces actes. On n'a plus qu'à faire l'acte. Bon, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, mais ces actes-là ont la même... cette étude-là a la même valeur que l'acte. Donc, on a expliqué que la vraie forme de l'homme, c'est d'être à l'image du Créateur. Et donc, pour être à l'image du Créateur, l'homme se doit d'être Créateur lui-même. On doit lui ressembler, on doit le copier, mais il ne faut pas oublier qu'on est seulement le Tselem, on est seulement le Tsel, nous ne sommes que l'ombre. On a un rôle de Créateur, mais on doit se rappeler en permanence qu'on est créature. Comme je vous l'ai dit, c'est quand être créateur, c'est s'exposer à un risque, on en a parlé au début, c'est le risque de se prendre pour le créateur, et ce risque-là, c'est ce qui mène donc à l'orgueil, ou c'est l'orgueil. C'est lorsqu'on tombe dans ce piège-là. Maintenant, être créateur, ça implique de choisir un travail qui soit créateur, un travail qui soit véritablement vivant. Parce qu'Hachem, tout ce qu'il fait est vivant, eh bien, sur ce modèle-là, il faut que le travail soit vivant et que c'est un travail réellement créateur. Et puis, cette création, Jean-David a montré qu'il y avait une place fondamentale à la fraternité dans ce travail de création. Cette créativité, cette inventivité, il a montré comment ça s'articulait entre Hevel et Caïn, justement, entre un travail qui est fait pour répondre à une nécessité, c'est-à-dire assurer la survie, avoir à manger, et une occupation qui apporte à l'homme quelque chose de plus que la survie. Et ils auraient pu, évidemment, travailler l'un pour l'autre. Ça aurait été la situation idéale, travailler ensemble dans la fraternité. Évidemment, ça n'a pas marché, ça on sait, c'est très difficile. Il va falloir montrer que le travail doit effectivement être une démarche personnelle d'amélioration. Et le travail, c'est d'inventer justement, d'arriver à cette fraternité qui laisse à l'autre toute sa créativité. Il faut faire advenir l'autre, en quelque sorte. D'après Rashi, Caïn et Hevel sont nés avant la faute. Par conséquent, dans le projet divin, il n'y a jamais eu un être unique ou même un couple unique. Ce qui a été créé initialement, d'après Rashi, c'est un réseau de relations. Des relations, comme on a déjà dit plusieurs fois, relations conjugales, des relations parentales, des relations enfants-parents, des relations fraternelles, des relations sororales, puisqu'il y a des sœurs qui sont nées, des relations frères-sœurs, etc. Ce réseau de relations-là, c'est ça qui a été créé initialement pour Rashi. Après la faute, le Midrash raconte que Adam Harishon a rencontré Caïn et il s'est étonné, il a dit, toi, tu es encore de ce monde, les informations circulaient mal, et Caïn lui a appris qu'on pouvait faire tshuva, ce qu'Adam, semble-t-il, ne savait pas. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce récit du Midrash, c'est que les relations étaient visiblement pas très fréquentes entre Caïn et son père. Peut-être que c'était seulement à la suite du meurtre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça donne à penser que la faute, ou peut-être même les fautes, la faute d'Adam et les fautes de Caïn, le meurtre, ont en fait ramené la situation qui était une situation d'un ensemble de relations, c'est devenu un ensemble d'individus, ayant peu ou pas de relations. Et le travail, de ce point de vue-là, est encore plus fondamental, parce que le travail aurait pour fonction de fabriquer des relations nouvelles entre ces individus qui ne pratiquent plus les relations. Adam Harishon s'est séparé de sa femme, donc on ne pratique plus les relations conjugales. Il n'y a plus de relation entre, évidemment, fraternelle, puisque Caïn a tué Hevel. Bon, donc, ces relations-là ne sont plus là. Et donc, le travail, lui, va fabriquer les relations. Les relations nouvelles. On peut d'ailleurs dire que même si les relations conjugales et familiales avaient perduré, le travail va inventer de nouvelles relations. En plus de relations avec le monde, de relations avec les autres, etc. Et Ramoshé a montré ensuite que le travail était justement producteur. C'était interrogé, est-ce que c'est producteur de valeur ou créateur de relations. Je pense qu'effectivement, le travail qui est un lieu d'échange, un lieu d'ouverture vers l'autre avec lequel les échanges vont se faire, cette ouverture a montré qu'elle nécessitait la prise de conscience, enfin la montée, la sensation d'un manque chez l'homme. Ce dont on a parlé initialement, l'homme est créé lui aussi avec des manques, et de ce manque va naître une ouverture vers Hachem, et puisque cette ouverture vers Hachem, elle va déboucher vers un travail particulier, qui est un travail avoda, un travail service. Et on avait dit au départ que Kramer a montré les différentes sortes de travaux, et maintenant on va passer de la mlacha à la avoda, c'est-à-dire que voir la avoda comme une ouverture, en fait, le service comme une ouverture. Et c'est pour ça, probablement, qu'il y a cette terminologie de avoda zara et pas mlacha zara. D'accord ? Parce que la avoda, qui est justement ce qui doit ouvrir, la gravité, c'est que c'est justement cette ouverture qu'on ferme, en quelque sorte, dans la avoda zara, dans l'idolâtrie, par cette fermeture qui s'applique justement à ce qui devrait ouvrir en réalité. C'est en ça que c'est grave. À la limite, s'il existait une notion de melacha zara, ce serait moins grave. De toute façon, la melacha elle-même n'a pas cette fonction d'ouverture. Et dans ces relations en particulier, Eric Smilevich nous a parlé de la notion de kinyan, la notion d'acquisition, qui est aussi une notion évidemment type de relation à inventer, mais dans la halakha, ce kinyan là représente une certaine compromission, dans la mesure où vous avez montré que l'idéal, ce qu'on appellerait une midat chassidut, ce serait d'être extrêmement rigoureux, extrêmement sincère justement dans une situation qui est une situation de relation avec l'autre, mais cette sincérité, elle est exigée, elle est très exigeante parce qu'elle est exigée même lorsque l'autre ne saura rien de mon manque de sincérité. On avait parlé de cette idée du problème qui était posé lorsque quelqu'un avait proposé un prix et le vendeur était d'accord, mais il n'a pas pu répondre, il était en train de dire Kriyat Shema, peu importe, il n'a pas pu répondre, et alors l'acheteur a cru que le vendeur ne répondait pas parce qu'il considérait que la proposition ne valait même pas la peine qu'il réponde. Alors il a commencé à monter son prix. Et quand il a terminé, il lui a dit « J'étais d'accord avec le premier prix. Je ne pouvais pas répondre, mais j'étais d'accord. » Et d'une certaine manière, on montrait que, en vérité, on devrait se considérer comme engagé au premier prix. Pourquoi ? Parce que tu étais d'accord. Donc, alors, évidemment, tu es face à toi-même. Personne ne saura que tu étais d'accord au premier prix. Qui est-ce qui n'acceptera pas ? Il a doublé le prix, là, pourquoi je ne prendrai pas le double ? La halakha ne m'oblige pas à cela. La halakha, elle n'oblige pas. Donc, il y a une forme de compromission. Au niveau de la halakha, il n'y a pas cette exigence de dire à l'autre, tu sais, j'étais déjà d'accord au premier prix. Puisque lui est d'accord de me donner ce prix-là, je prends. Il y a une forme de compromission. Un peu de la compromission, comme si, oui, il y a l'idéal, et puis, bon, bien sûr que cet idéal, on nous raconte justement un cas de quelqu'un qui vivait selon cet idéal. Rav Safra, lui, vit selon... Ce que l'Agmara raconte, c'est justement quelqu'un qui vit selon cet idéal. Mais la halakha n'a pas retenu cette conduite-là comme étant une conduite obligatoire. Donc on admet que la halakha est comme un minimum, en quelque sorte. Il y a une forme de compromission. On ne demande pas plus, mais on te dit on peut faire mieux. Par exemple, si tu t'interroges pour demander Matai Yagi ou Maasai le Maasai Avotai, tu dois aussi te demander Matai Yagi ou Maasai le Maasai Rav Safra. Quand est-ce que je serai capable de faire comme Rav Safra? Et si, effectivement, je suis d'accord avec le premier prix, est-ce que je suis capable de dire à l'autre, je suis d'accord? J'étais d'accord avec le premier prix, et donc, bien que tu m'offres maintenant le double, je te vends à la moitié de ce que tu offres aujourd'hui. Parce qu'au moment où tu m'as offert le premier prix, j'étais d'accord. Je peux me dire, donc, quelque part, la Torah montre cet exemple-là. Elle ne dit pas que, elle le décrit pas comme une forme tout à fait abstraite. Voilà quelqu'un qui agit comme ça. Bon, la halakha n'est pas comme ça. La halakha ne m'oblige pas à ce niveau-là. Ça, c'était donc cette notion de une certaine compromission. Ensuite, on a vu que, ayant des fonctions différentes dans le monde, le Ben Noach et le Ben Israël, donc, ont des halakhot différentes. Et le problème des relations entre les deux corpus de halakhot, en particulier entre les deux législations du travail, par exemple, se pose comme une composante des relations entre les Ben Noach et les Ben Israël, qui sont les deux composantes de l'humanité. Et Jonathan Weissman nous l'a montré, en particulier sur les lois de Ribbit ou bien d'Ashavat Aveda, où effectivement, il y a là aussi une forme de compromission, une apparente compromission, qui est tolérée, et peut-être même encouragée, mais peut-être même prescrite par la Torah, dans les relations d'échange avec les Goïm, avec les Bnei Noach, et qu'il a voulu montrer comme étant la résultante des relations entre deux cercles. On a un cercle composé, ou un espace, un ensemble composé de gens qui ont accepté les 613 mitzvot. Donc, ces gens qui ont pris sur eux ces mitzvot, ont, parce que ils ont ensemble cette obligation de ce hall de mitzvot, cette obligation de respecter les mitzvot, parce qu'ils ont cela ensemble, ça crée une forme de fraternité entre eux. Et du coup, ça va permettre un échange entre eux, par exemple dans le ribbit, on va s'interdire de prendre de l'intérêt lorsqu'on prête de l'argent à son frère, à ce frère dans les mitzvot, c'est-à-dire ce frère, celui qui a les mêmes mitzvot que moi. Et puis il y a un deuxième groupe de gens qui entre eux n'ont pas toutes ces obligations, mais qui ont entre eux aussi certaines obligations qui sont éthiquement aussi exigeantes en fait. Et puis la Torah dit que les relations entre les deux ensembles en question, c'est la relation entre les gens appartenant à des ensembles, à ces deux ensembles, donc deux personnes appartenant chacune à un autre de ces deux ensembles, que ces relations ne sont pas les mêmes que s'il n'y avait qu'un seul ensemble de gens ayant tous le même engagement, en quelque sorte, par rapport au rôle des mitzvot. Et donc, si on lui, il a voulu présenter la chose en disant que il y a une apparente tolérance de la Torah qui permet, ou même qui prescrit, selon les décisionnaires, de prendre du ribbit, de prendre de l'intérêt dans un prêt, lorsqu'on passe d'un groupe à l'autre. Il a voulu dire que, d'après certains, cette tolérance, elle est peut-être un reflet de la situation de relation d'Ebné Israël avec les nations dans les différents moments de son histoire. C'est évidemment pas satisfaisant dans la mesure où, pas vraiment satisfaisant, c'est pas son expression, c'est pas son idée, c'est une idée qui existe dans les grands décisionnaires, mais c'est pas vraiment satisfaisant dans la mesure où c'est difficile d'historiciser la Torah, c'est-à-dire de dire que la Torah parle de situations historiques ici. Et puis, il faut travailler sur la compréhension de ces relations-là, mais il faut savoir que ce n'est certainement pas qu'un problème de réciprocité. Ce n'est pas qu'on ne peut pas s'en sortir en disant, lui ne me prêterait pas sans intérêt, le Ben Noir ne me prêtera pas sans intérêt, donc je ne lui prête pas sans intérêt non plus. Parce qu'on voit que, justement, si on se donne comme modèle Maase Avotai, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on voit très bien que le comportement tout à fait exemplaire de Yaakov avec sa crapule de beau-père, Lavan, on voit bien qu'il savait bien qu'il n'y avait aucune réciprocité de la part de Lavan. Ça n'a pas empêché Yaakov d'être extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même, au point que Lavan, après une vingtaine d'années de séjour de Yaakov chez lui, alors que en fait ses filles étaient, enfin les femmes de Yaakov étaient à la maison chez Lavan en réalité, c'était les filles de la maison, Lavan n'a rien trouvé dont il aurait pu prétendre que ça venait de chez lui. Absolument rien. Donc ça montre la rigueur de Yaakov à l'égard de Lavan, alors même qu'il savait bien qu'il n'y avait rien à attendre d'une quelconque réciprocité de la part de son beau-père Lavan. Donc, finalement, à la question qu'on avait posée, enfin, qui était, disons, la question de ce séminaire, je pense qu'effectivement, je pense qu'on a montré que Le travail est bien une valeur, mais une valeur qui s'exprime en particulier par le droit du travail, un droit qui préserve la liberté qu'Hachem nous a donnée à la sortie d'Égypte, mais qui ne s'est vraiment exprimée que au Sinaï, c'est-à-dire dans un travail d'étude permanente. Cette liberté, effectivement, elle doit être préservée dans les relations de travail. Il faut voir ce travail comme un travail qui complète le monde. C'est un travail absolument nécessaire pour que l'homme joue le rôle qu'il a à jouer dans le monde. C'est-à-dire, sans travail, c'est pas possible. L'homme ne peut pas arriver à faire ce qu'Hachem lui a demandé de faire sans en passer par le travail. Mais c'est un travail qui doit laisser à chacun sa pleine dimension, en particulier sa liberté. Et ça présuppose qu'on veille, en tout cas, à faire apparaître ce travail comme une suite de l'étude. Un travail donc qui construit le monde, qui complète le monde, qui s'inscrit dans le plan divin, d'un monde qui est créé incomplet par Hachem pour que l'homme le complète. Et pourquoi cela? Pour que l'homme soit dans un monde que lui, l'homme, aura en quelque sorte construit. C'est ça la valeur travail, si vous voulez. C'est pas des mots creux, c'est pas le travail comme une valeur, on ne sait pas exactement ce que c'est, comme un problème d'assiduité ou de... Non, je crois que l'important ici, c'est le fait que cette valeur s'exprime impérativement à travers un droit du travail. Je ne pense pas qu'il y ait une notion de droit au travail, mais en tout cas un droit du travail. Un droit donc qui préserve la liberté. Voilà, je voudrais terminer en remerciant tout particulièrement Rav Moshe et Chaim Meir Trancar et Jean-David Msika que j'ai vu travailler pratiquement quotidiennement pour ce séminaire. On fait un énorme travail pour aider tous ceux qui sont intervenus dans ce séminaire. Remercie tous ceux qui ont régulièrement participé ou même ceux qui ont participé irrégulièrement. Et j'espère qu'on aura encore l'occasion de se retrouver dans un séminaire sur un autre sujet. C'est pas une proposition d'ailleurs. J'ai remarqué que nous n'avions pas parlé du tout du travail de la femme. Et c'est vrai qu'il y a un travail de la femme qu'on ne veut pas voir du tout comme un travail, il ne s'agit pas du tout de voir comme un travail qui remplacerait, enfin qui serait équivalent au travail de l'homme, mais un travail spécifique de la femme. Ce qu'on voit dans la Torah, c'est que on ne va pas parler de Rava directement, mais on voit justement que on voit ça chez Rivka, enfin on voit ça chez Rachel et chez Rivka et Rachel. On voit qu'elles sont bergères des troupeaux paternels, ce que j'ai toujours considéré comme étonnant dans la mesure où ça les exposait énormément. Puisque les autres étaient des bergers, on voit très bien que ce soit les filles de Yitro ou justement Rachel, etc. Elles sont curieusement très exposées pour même à un très jeune âge. Ensuite, on les voit comme maîtresses de maison, puis ensuite Eshet Chayil au sens obvi du terme. Et il y a une femme qui joue un rôle tout particulier, qui est un rôle d'éminence grise. Pas du tout, on appelle ça éminence grise, je ne sais pas très bien pourquoi, mais l'éminence grise en quelque sorte dans le clan Israël, c'est Myriam. C'est Myriam à laquelle on doit Moshe. On doit Moshe à Myriam. C'est Myriam qui a poussé Amram à se remarier. C'est Myriam qui a surveillé le Moshe qu'on avait mis sur le Nil, qu'on avait abandonné au Nil. Donc s'il a survécu, bien sûr c'est Hachem qui l'a fait survivre, mais celle qui était concrètement à l'affût, qui a surveillé tout ce qui se passait, celle qui était justement porteuse de la promesse de ce que le clan Israël allait se libérer et que Moshe allait jouer un rôle, et qu'il fallait, celle qui a osé remettre quasiment son père à sa place, son père qui était non seulement son père mais qui était le chef de la génération. Vous voyez cette petite fille qui a dit à son père, mais j'imaginais aujourd'hui une fille qui dirait à son père, tu es pire que Paro. Bon, puisque Paro, finalement, il a tué avec les garçons, et toi, tu es en train de tuer les garçons et les filles. Et ce qui est surprenant, et ça se montre la grandeur du clan Israël, c'est que le père a obéi à sa fille. Il s'est remarié avec Yocheved. Donc, c'est Myriam. On voit très bien qu'il se passe quelque chose d'incroyable dans ce clan Israël, qui assure la naissance du clan Israël, finalement, la sortie d'Égypte. Alors il y a ce rôle-là, qui est un rôle fondamental, on voit Myriam par la suite, mais disons en tout cas à ce moment-là, il y a les matriarches, il y a Myriam, il y a des personnages comme Hana, qui a inventé le mode de prière qui est encore le nôtre aujourd'hui. Enfin, je ne vais pas du tout faire un catalogue ici. Est-ce que c'est ça leur travail ? Qu'est-ce que c'est que le travail de la femme ? Est-ce que c'est quelque chose de particulier ? Est-ce que... Bon, je ne savais pas trop quand dire, donc j'en ai rien dit. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances. Et s'il y a des questions, évidemment, on va y répondre. Bon, on va lever la séance.